France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Vladimir Poutine s'apprête à passer 4 jours chez Xi Jinping, assisté au très grand défilé militaire du 3 septembre. Ils se voient beaucoup, ces deux hommes. Ils affichent leur axe face à l'Occident, mais l'un domine clairement l'autre. Et vous saurez qui en écoutant Sylvie Berman, qui a été ambassadrice en Chine et aussi en Russie. Revoilà l'idée de la Riviera à Gaza. Mais que vient faire Tony Blair dans ce débat et dans le bureau ovale? Louise Baudet remet le monde à l'endroit pour nous l'expliquer. Le reportage est au Nigeria, où les anti-vax sapent la campagne d'immunisation contre la polio.
On nous a insultés. Un collègue a même été agressé. On nous a traités d'infidèles, de soutenir l'Occident.
Un reportage de Sophie Douce à découvrir autour de 18h38. Ne vous avisez pas de vapoter à Singapour. Non seulement c'est interdit, mais la punition sont des coups de fouet. C'est l'une des histoires passées sous les radars que nous racontera Guillaume Oda. Et puis, est-ce que les géants de la tech s'intéressent à l'impact écologique des IA qu'ils fabriquent? La réponse de Stéphane Jourdain avant 19h. Spoiler alerte, pas vraiment. Allez, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Soyez les bienvenus.
C'est
Xi Jinping à Moscou qu'on entend. La Chine et la Russie devraient approfondir la coopération pratique dans divers domaines, dit-il, renforcer les bases matérielles de notre coordination stratégique et globale. Nous devons défendre l'équité et la justice et être les défenseurs de l'ordre international. C'était en mai dernier. Poutine était en Chine quelques mois avant. Il y retourne là pour 4 jours, donc à l'occasion des cérémonies militaires que la Chine veut donner pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir Sylvie Berman.
Bonsoir.
Vous avez été ambassadrice de France à Pékin et aussi à Moscou en 2011 pour l'un, jusqu'en 2019 pour Moscou. Il y a eu Londres au milieu. Vous avez signé l'ours et le dragon Russie-Chine, l'histoire d'une amitié sans limite, avec un point d'interrogation au bout du sans limite. C'est publié chez Talendier. L'amitié sans limite, pour mettre nos auditeurs au courant, c'est le terme utilisé par les deux pays dans un communiqué commun qu'ils avaient fait lors d'une rencontre à Sochi juste après les Jeux Olympiques, et c'était juste avant l'annexion de la Crimée. Sylvie Berman, je ne sais pas qui domine l'autre, de l'ours et du dragon, mais ces deux hommes, effectivement, ils se voient énormément. On ne peut pas s'empêcher de penser quand même que la relation est terriblement équilibrée et que Poutine, au fond, vient remercier Pékin pour être son poumon économique et que Pékin, lui, déroule le tapis rouge à la Russie, effectivement, mais que c'est plutôt l'un qui domine sur l'autre.
Alors évidemment, c'est un partenariat totalement asymétrique, parce que la Chine est aujourd'hui plus puissante. C'est d'ailleurs difficile pour Moscou, parce qu'il y a eu une inversion de puissance. Hein. À l'époque soviétique, l'Union soviétique était le grand frère, et la Chine le petit frère.
Parce qu'elle ne vivait pas bien d'ailleurs, dans la manière de l'appeler.
Absolument, et comme l'avaient dit certains experts russes retournés en Chine, le petit frère a bien grandi.
Ouais.
Effectivement, aujourd'hui, la Chine est beaucoup plus puissante, parce que c'est une puissance économique, mais en même temps elle veille à ne pas le faire sentir à Vladimir Poutine, à ne pas l'humilier, et ils ont un intérêt commun parce qu'ils ont un ennemi commun. Et il y a un adage en diplomatie, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et face aux États-Unis, à l'Occident de manière générale, ben, il y a un rapprochement des deux pays.
Est-ce qu'on peut, on va revenir sur ce que vous dites à l'instant, est-ce qu'on peut imaginer quand même que Xi Jinping a une forme de mépris, je ne sais pas si le terme est bien choisi, pour ce voisin qui, au fond, du haut de sa puissance, se casse quand même le nez sur la petite Ukraine? Est-ce qu'on sait, dans les couloirs des chancelleries, que la Chine se dit pas si fort, la Russie, vraiment?
Alors, la Chine regarde ça, évidemment, de très près, peut-être aussi avec une arrière-pensée,
bien
parce
sûr.
Que personne ne sait, évidemment, ce qu'elle fera à Taïwan, et voyant les sanctions occidentales, voyant les difficultés de la Russie, je pense que ça fait réfléchir. En même temps, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, qui était en visite en Europe récemment, avait dit que la Chine ne souhaitait pas un échec de la Russie, tout simplement parce que c'est son partenaire et on ne souhaite pas l'échec de son partenaire, parce qu'un jour peut-être il y aura un renvoi d'ascenseur. La Russie reste quand même une puissance militaire, nucléaire surtout, et est membre permanent du Conseil de sécurité, même si pour le moment le Conseil de sécurité est totalement paralysé.
Ce qu'on va voir là à partir de dimanche, et puis principalement mercredi. Est-ce que au fond, c'est pour les deux pays que ça compte, ou est-ce que c'est à nous qu'on envoie ce message-là ? Regardez, notre axe, il est solide, il fonctionne, et nous sommes là tous les deux. C'est pour nous l'image, en fait, non ?
L'image est effectivement pour nous. Alors, c'est pas une alliance, hein, la Chine.
Non, c'est intéressant d'ailleurs. Un axe n'est pas une alliance.
Absolument.
Ouais. C'est ce que vous dites.
C'est un partenariat. Mm-hmm. C'est un partenariat de longue durée, parce que c'est leur intérêt. Je dirais, à partir du moment où les États-Unis ont déclaré une sorte de guerre froide à la Chine, hein, dans le cadre du piège de Thucydide, où les États-Unis ont peur de la concurrence de la puissance montante, eh bien, je pense que ce partenariat ne peut que se renforcer, et dans tous les domaines, puisqu'il y a aussi des exercices militaires conjoints.
Qui s'est considérablement renforcé. Alors, il y a eu la guerre en Ukraine, et on y viendra, mais il y a aussi effectivement Trump, et y compris Trump 1 d'ailleurs, et vous l'écrivez en citant l'un de vos contraires, le miracle de Trump, c'est d'avoir réussi effectivement à rabibocher ces deux-là qui avaient des relations un peu en dents de scie. Est-ce que l'erreur, au fond, l'erreur fondamentale de Trump, c'est pas d'avoir cru, quand il a, lui, pour le coup, sorti le tapis rouge pour Vladimir Poutine, d'avoir cru que ça détacherait ce couple Russie-Chine, alors qu'il s'est passé exactement l'inverse?
Alors, moi, je sais pas si c'était l'intention réelle de Donald Trump, parce que Donald Trump dit tout ce qui lui passe par la tête. Et je ne l'ai pas trop entendu dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des stratèges dans son entourage qui imaginent ça, puisqu'on parlait d'un Kissinger à l'envers.
Hein.
Mais en tout cas, bon, il ne faut pas se faire d'illusions effectivement là-dessus. Quand j'avais évoqué Trump, c'est parce que mon interlocuteur russe, qui est aujourd'hui d'ailleurs ambassadeur à Pékin, m'avait dit, grâce à Donald Trump, et c'était le premier mandat, la Russie et la Chine n'ont jamais eu d'aussi bonnes relations depuis Catherine
deux.
C'est pas uniquement depuis quelques décennies.
Oui, absolument.
Et donc, c'est pour ça que j'avais trouvé intéressant d'écrire ce livre et de revenir également sur l'histoire. Mais Kissinger avait donné un autre conseil à tous les présidents américains, c'est d'avoir de meilleures relations avec Pékin et Moscou bilatéralement que les deux capitales entre elles.
Trump, effectivement, a été le premier catalyseur qui les a rapprochés, ces deux-là, et puis le deuxième, évidemment, spectaculairement d'ailleurs, c'est l'Ukraine, puisque les matières premières, les biens manufacturés, l'énergie, le gaz russe, les automobiles, les échanges, j'ai noté ce chiffre, représentent 200 milliards, ce qui est absolument colossal et qui est même largement supérieur à ce que c'était, ne serait-ce qu'avant 2022, on l'a dit, largement favorable à la Chine, mais pourtant cette guerre, elle embarrasse Pékin, et elle l'embarrasse toujours d'ailleurs, Pékin. Non, l'annexion de la Crimée n'a jamais été reconnue. La Chine a toujours été en retrait de l'invasion. Est-ce qu'elle marche toujours un peu sur des œufs vis-à-vis de l'Ukraine, cette Chine ?
Oui, en réalité, la Chine avait d'excellentes relations avec l'Ukraine avant la guerre. Il y avait 7000 étudiants chinois dans le pays. Il y avait une coopération également sur le plan nucléaire et dans beaucoup de domaines. Cette guerre, en réalité, je pense que ce que lui a dit Poutine, c'est qu'il allait lancer une petite opération militaire spéciale.
Oui, oui. Et, il lui a dit quand même, à votre avis. Il lui a dit à Sochi pendant la fameuse rencontre.
Je pense qu'il lui a dit pour une raison assez simple, c'est que l'intervention en Géorgie était le premier jour des Jeux Olympiques à Pékin.
C'est vrai.
Donc ça avait un peu
gâché
la fête.
Oui, oui.
Et je pense que Xi Jinping, enfin les Chinois, en voyant la concentration de troupes autour de l'Ukraine, ont dû demander à ce que ce ne soit pas le même jour. Donc je pense qu'effectivement, ça a été évoqué. Mais effectivement, ils n'ont jamais reconnu l'annexion de la Crimée. Ils restent attachés à l'intégrité, à la souveraineté, l'intégrité territoriale. Et puis, ils sont victimes de sanctions. C'est-à-dire que dans la mesure où ils ont acheté du pétrole et du gaz russe, ils fournissent des composants à usage dual, donc civil et militaire, eh bien, plusieurs, même centaines, je crois, d'entreprises chinoises sont sous sanctions américaines.
Et c'est bien ce qui les rassemble d'ailleurs, hein, à la fois les sanctions, la détestation de l'Occident, ils sont tout à fait capables de trouver des fils conducteurs l'un l'autre. On a parlé de ces 200 milliards d'échanges, c'est aussi la Chine qui fournit 70% des machines-outils Sacher pour les missiles balistiques, c'est elle qui fournit le microélectronique, ça marche aussi pour l'armée. Mais la ligne rouge, effectivement, c'est une aide militaire concrète qui serait des armes. Est-ce qu'on sait, avec une grande certitude, que cette ligne-là ne sera jamais franchie, Sylvie Berman ?
Alors qu'elle ne sera jamais franchie, on ne le sait pas, mais en tout cas, les Américains avaient indiqué qu'elle n'était pas franchie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'armes qu'il n'y avait pas d'armes létales, ce qui ne veut pas dire effectivement que ces composants ne participent pas à l'effort de guerre, mais en tout cas, il y a une ligne rouge qui n'est pas franchie. Alors, en plus, comme Vladimir Poutine se repose beaucoup sur la Corée du Nord, hein, sur les armes...
J'allais dire, ils ont besoin des armes et de la chair à canon de la Corée du Nord,
absolument.
Pas besoin de celle de la Chine, en fait, oui. Pas besoin de celle de la Chine, ou ce
pas
serait bienvenu.
De celle de la Chine, dans la mesure où la Corée du Nord est une caserne à ciel ouvert.
Hein. Est-ce que vous diriez que si la Chine, de toute façon, ne franchit pas cette ligne rouge, c'est aussi parce que, et c'est pareil d'ailleurs sur un point de vue économique, dans les relations qu'on peut avoir, que contrairement à Poutine, elle ne veut pas intégralement rompre avec nous, la Chine. Et c'est peut-être ça qui divise. Au fond, les deux pays n'ont pas la même vision du monde. La Chine ne veut pas être complètement divisée avec nous. Moscou, terriblement, en fait.
Oui, tout à fait. Moscou a fait le choix de la rupture et Vladimir Poutine parlait toujours de cet Occident collectif où il voyait des Européens vassaux des Américains, alors que pour les Chinois, qui ont toujours défendu, d'ailleurs, la communauté puis l'Union européenne, l'Europe est plutôt vue comme finalement un partenariat de revers contre les ennemi principal qui reste les États-Unis. Et même avec les États-Unis, il y a des négociations, il y a des compromis et des accords.
Mais est-ce que ça peut à un moment ralentir les échanges avec la Russie et donc mettre la Russie en difficulté, que la Chine se mette à balancer un petit peu quand même le type de commerce qu'elle fait avec qui, envoyer un certain nombre de signes, donc décider d'arrêter d'envoyer certaines choses en Russie, etc. C'est possible ? Il y a cette espèce de jeu de chantage là qui existe ou pas ?
Alors, c'est possible, mais dans une moindre mesure. Alors, les 200 milliards en fait, ils avaient été décidés déjà dès 2019. Ce n'est pas une conséquence de la guerre en Ukraine. Ce rapprochement avait déjà été anticipé.
C'était même un objectif, d'ailleurs.
C'était un objectif, absolument. Maintenant, encore une fois, la Chine ne va pas franchir la ligne rouge. Il faut voir ce que Donald Trump va faire, puisqu'il menace de sanctions. Le Sénat a préparé des sanctions de 500% d'augmentation des droits de douane. Ça passera difficilement avec la Chine, mais et ça pourrait dissuader effectivement la Chine. Mais vous avez raison, la question des sanctions, ça les rapproche. Et ça les rapproche aussi avec l'organisation de la coopération de Shanghai, les BRICS, toutes les réunions qui vont avoir lieu, parce qu'ils ont décrété, en tout cas lors de la réunion des BRICS, que tous ces pays voulaient une zone exempte de sanctions et qu'ils plaidaient pour une dédollarisation de l'économie pour ne pas souffrir de l'hégémonie du dollar.
Ils ont décrété, Sylvie Berman, mais aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est la Chine qui domine le Sud global, la Russie là-dedans. C'est, quand on regarde les choses, on se dit qu'elle a finalement pas tellement son mot à dire, en fait, non ?
Oui, bien sûr, c'est la Chine, même si à l'origine, ça avait été créé plutôt par la Russie.
Exactement.
La première réunion avait lieu en Russie. Oui, il y a un affaiblissement incontestable de la Russie, mais il n'empêche que les BRICS se sont rendus à Kazan l'année dernière et qu'il y avait, comme l'avait relevé la presse russe, une majorité mondiale qui était là autour de lui, d'ailleurs y compris le secrétaire général des Nations Unies.
Vous avez employé le mot tout à l'heure qui est celui de Vladimir Poutine, effectivement, qui est de dire que l'Europe est vassalisée par les États-Unis. Est-ce que d'une certaine façon, la Russie n'est pas vassalisée par la Chine ?
Alors, je ne pense pas, parce que si elle était vassalisée par la Chine aurait pu avoir une influence sur Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à la guerre. Mm-hmm. Or, la Chine n'a pas d'influence sur la Russie, en tout cas sur le plan politique.
Mais vassalisée économiquement, à minima
Économiquement, la Chine, c'est un négociateur redoutable. Mm-hmm. Et donc, déjà, le contrat de 2014 qui était sur le pétrole, qui était le contrat du siècle, ça a été au terme chinois, parce que la Chine est la plus forte tout simplement.
Et il paraît que le gaz russe il l'achète pour une bouchée de pain.
Et le gaz russe, absolument, il l'achète très, très peu cher, mais encore une fois, parce que sur le plan économique, c'est des négociateurs absolument redoutables et qui ne font pas de cadeaux.
Vous dites que si on pouvait parler de vassaux, effectivement, la Chine aurait réussi à avoir au moins une main sur la guerre en Ukraine. Il y a eu un moment un plan de paix sur la table façonné par Pékin qui était tout à fait à la main de Moscou, effectivement, mais il y a eu la volonté de se mêler de cette guerre. Il y a même eu un moment, d'ailleurs, des paroles de Trump disant peut-être qu'il faudrait inclure la Chine. Est-ce que c'est complètement oublié désormais
Alors, ce plan de paix, en réalité, d'ailleurs, ils ne l'ont pas appelé plan de paix.
Non,
il y a un certain nombre de principes qui ont été évoqués, mais y compris la souveraineté et l'intégrité territoriale. territoriale. Donc c'était pas complètement en faveur de la Russie, mais simplement il se présente comme neutre. Mais neutre, ça veut dire chacun fait des compromis, et donc effectivement ça favorise la Russie. Ils n'ont pas tellement d'appétence, les Chinois, pour des négociations. Alors certes, ils ont orchestré la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais ils le font assez peu en réalité, et je crois qu'ils ont abandonné l'idée. Il n'est pas exclu que si un jour il y a des garanties de paix pour l'Ukraine, la Chine revienne dans le paysage, même si pour le moment l'Ukraine n'en veut pas, mais comme Poutine ne veut pas des Européens, peut-être qu'il y aura in fine un accord sur ce plan.
En tout cas, 4 jours à Pékin, c'est beaucoup. Ça dit des choses à partir de dimanche pour Vladimir Poutine. Ce fameux défilé du 3 sur la photo. On verrait aussi le Nord-Coréen Kim Jong-un. Et ça aussi, c'est également à notre direction, si je puis dire, que ça s'adresse. Sylvie Berman, vous avez écrit L'ours et le dragon et c'est publié chez Talendier. Je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous.
Merci.
La suite d'un jour dans le monde, c'est Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit, Louise.
Quand le rêve de Donald Trump d'une Gaza Riviera ressurgit, surprise, Tony Blair est de la partie.
Allez, à tout de suite.
Like sugar on my tongue. Your body is so sweet. Invite me if you come. It's all I want to.
Taylor, The Creator, Sugar on My Tongue, c'est sur la playlist de France Inter. Vous êtes dans Un Jour dans le Monde qui a bien besoin d'être mis à l'endroit.
Fabienne Synthèse.
C'est vrai, c'est tout là que nous avons.
Le 18-20.
Louise Baudet, on parle de Gaza ce soir et on découvre que le projet de Riviera n'est pas mort. Et c'est un revenant, Tony Blair, qui participe à sa résurrection.
Ouais, Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, présent hier dans le bureau ovale aux côtés de Donald Trump. Rien n'a filtré de cette réunion d'une heure et demie consacrée à l'avenir de la bande de Gaza, si ce n'est son casting, et c'est déjà beaucoup. Car le même Tony Blair dirige une fondation, le Tony Blair Institute, très impliqué, selon la presse britannique, dans un projet de Riviera du Moyen-Orient, concrétisation du rêve ébauché par Donald Trump en février dernier, à rappelez-vous, rêve en trois temps. Un, prise de contrôle américaine de Gaza. Deux, déplacement permanent des Palestiniens du territoire. Trois, construction d'un complexe immobilier de luxe en bord de mer. Plan condamné à l'échelle mondiale, car supposant le nettoyage ethnique de l'enclave, plan mis entre parenthèses depuis, le voilà qui ressurgit.
Mais alors que vient faire Tony Blair dans cette histoire ?
Alors le Financial Times a révélé début juillet que sa fondation a participé au développement d'un plan pour Gaza intitulé Great Trust, le Grand Trust, soit une rivière à Trump avec complexe immobilier de luxe, archipel d'îles artificielles similaires à celles de Dubaï, zone économique spéciale à faible fiscalité, plus une zone de construction de voitures électriques portant le nom d'Elon Musk, conçue sans doute avant que les deux hommes ne se fâchent. Plan élaboré sous forme de diaporama aux slides futuristes, il propose à cet important de payer un demi-million de Palestiniens pour qu'ils quittent la bande de Gaza. Plan que le Tony Blair Institute reconnaît avoir vu, mais qu'il n'a ni rédigé ni approuvé. Nous sommes opposés, disent ses dirigeants, à tout projet visant à forcer les Gazaouis à quitter Gaza.
Alors on l'a compris, Louise, la fondation de Tony Blair n'endosse pas ce plan de Gaza Riviera, mais l'ancien Premier ministre britannique est quand même très très impliqué dans la région.
Oui, quand il quitte le 10 Downing Street en 2007, il devient représentant spécial au Moyen-Orient du quartet composé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et de l'ONU. Il se concentre déjà sur le développement économique des zones palestiniennes et la création des conditions pour une solution à deux États, un poste que Tony Blair va occuper jusqu'en 2015. Très actif sous l'administration Biden et depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il a rencontré en juillet Steve Witkoff, l'émissaire du président américain au Proche-Orient, puis quelques jours plus tard, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
Alors un autre participant, Louise, à la réunion d'hier retient évidemment l'attention, c'est Jared Kushner.
Oui, le gendre de Donald Trump, ancien conseiller à la Maison-Blanche lors de son premier mandat, principal artisan des accords d'Abraham de 2020 qui ont vu le Maroc, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis normaliser leurs relations avec Israël. Il reste dans l'orbite présidentielle et détient par ailleurs de gros intérêts financiers au Moyen-Orient. Sa société de capital investissement comptant parmi ses principaux investisseurs des fonds souverains de riches pays du Golfe.
Voilà, tout ça laisse penser que Donald Trump donc n'a pas renoncé à son projet.
Et non, lui qui il y a quelques jours déclarait s'attendre à ce que la guerre prenne fin d'ici 2 à 3 semaines, d'ici la fin de l'année, tempère son émissaire Witkoff, à peine moins optimiste. En attendant, Israël intensifie ses opérations autour de Gazaville et dénonce les accusations de famine de l'ONU comme fabriquées de toutes pièces.
Louise Baudet. Le reportage est au Nigeria ce soir, devant une maladie oubliée des Européens, éradiquée chez nous depuis plus de 20 ans, mais qui persiste. Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, la polio peut provoquer une paralysie irréversible et même la mort chez les enfants. Les derniers cas en date se concentrent dans le nord du pays, une région majoritairement musulmane où la défiance contre le vaccin est bien vivace. Vidéos complotistes, prêches anti-Occident, sur les réseaux sociaux, des influenceurs ultra-conservateurs sapent les efforts des campagnes d'immunisation et le retrait des États-Unis de l'OMS ainsi que de l'Alliance mondiale pour les vaccins apporte de l'eau à ce moulin-là. Nous sommes à Kano, c'est la grande ville du nord. Et le reste, c'est Sophie Douce qui raconte.
Au milieu d'une ruelle boueuse, Absa Mohamed, une agente de santé communautaire, est à la recherche des enfants oubliés du quartier. Ces oubliés, ce sont des petites filles, des garçons qui n'ont pas été immunisés contre la polio. Deux gouttes de vaccin dans la bouche, quelques larmes. Il y a plusieurs années, il aurait été impossible pour cette bénévole de venir ici avec ses glacières de flacons.
On m'aurait chassée. Certains disent que le vaccin est dangereux et rend stérile.
À Kano, un état régi par la charia, la loi islamique, la défiance persiste. Selon la dernière enquête démographique, 55% des enfants âgés entre 1 et 2 ans n'ont pas été vaccinés contre la polio. En 2024, 90 cas d'infection ont été enregistrés à travers le pays. Au centre de santé du quartier d'Otoro, les soignants multiplient les sensibilisations pour tenter de démonter les fausses croyances. Blouse blanche et chapeau traditionnel sur la tête, Aboubakar Mohamed mène la bataille de l'information depuis plus de 20 ans.
Certains disent que le vaccin rend les enfants sourds et infertiles. Ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils croient. On nous a insultés. Un collègue a même été agressé. On nous a traités d'infidèles, de soutenir l'Occident. On va dans les écoles coraniques aussi, les cours de récréation, partout où sont les enfants.
L'objectif, atteindre 90% de couverture vaccinale. Sans cette immunité collective, il suffit d'une seule infection pour faire ressurgir une nouvelle épidémie. Mais sur TikTok, des influenceurs ultra-conservateurs alimentent la culture du complot, nourrie par la méfiance envers les institutions et les élites politiques. Dans les années 2000, ces théories conspirationnistes ont déclenché un vaste mouvement de boycott des campagnes de vaccination dans trois États du nord du Nigeria. À l'origine, un médecin de la ville de Kano qui accusait les États-Unis de vouloir éliminer les musulmans en pleine guerre en Irak et en Afghanistan. Dans son atelier de soudure, Aminou Ahmed se déplace en rampant. Ses deux jambes sont paralysées depuis ses 3 ans. À l'époque, en Afrique, ils sont des dizaines de milliers comme lui à contracter la polio chaque année.
J'étais bébé, ma mère me donnait le bain, elle m'a dit « lève-toi ». Je suis tombé dans l'eau et je me suis mis à pleurer. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu me relever. L'école était à 1 kilomètre de la maison. Personne ne pouvait me porter pour m'emmener.
Depuis, il fabrique des tricycles pour permettre aux enfants handicapés d'aller en classe. À cause du boycott des années 2000, son fils a lui aussi été paralysé. Alors, lorsqu'il entend Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé américain doutait à son tour de l'efficacité du vaccin, il réplique.
Il ne connaît pas la polio, mais nous les Africains, on sait ce que c'est. Ça circule dans l'air, dans l'eau. Alors qu'il vienne, je vais lui montrer comment la polio a attaqué mes jambes. Peut-être qu'il changera d'avis.
En attendant, au Nigeria, les médecins craignent un effet boule de neige de la désinformation américaine et des coupes budgétaires qui mettraient en péril des années de lutte.
Sophie Douce pour le reportage, merci beaucoup. À suivre dans le 18-20, Guillaume Audat qui émerge de sous les radars.
Voilà, et on va en Thaïlande où la Chine, encore elle, encore la Chine censure mais à distance.
La tech la première, le retour de Stéphane Jourdain et ses infos qui font peur.
Sam Altman rêve d'envoyer des data centers dans l'espace.
C'est bien ce que je disais. À tout de suite, allez, on fait d'abord escale au Brésil avec Rodrigo Amarante. Mana, ça date de 2014. Rodrigo Amarante sur France Inter.
Here's a is such an ironic thing because this exhibition is all about the network of authoritarian regimes.
Guillaume Audaz, c'est d'abord un artiste birman que l'on écoute dans Sous les radars, censuré par Pékin.
Oui, mais alors pas en Chine, à 3300 km de là, en réalité à Bangkok, en Thaïlande, où l'on peut en principe exposer librement des œuvres d'art, sauf quand elles viennent heurter le géant chinois. Ça a été le cas au Centre d'art et de la culture de Bangkok, où trois jours après l'ouverture d'une expo, des émissaires de l'ambassade de Chine sont venus exiger des Thaïlandais sa fermeture à cette expo. Pourquoi ? Eh bien parce qu'y étaient montrés les travaux d'artistes soit en exil, soit issus de la diaspora d'un peuple opprimé, Russie, Iran, Tibet, Birmanie. Mais la grande ironie de cette histoire, et c'est ce que nous dit l'artiste Sai qu'on a entendu, il est donc birman, c'est que cette exposition a été précisément confrontée à ce qu'elle dénonce, la grande toile des États autoritaires, et ça n'a pas du tout plu à Pékin qui s'est senti évidemment ciblé, mais qui a des liens très étroits avec Bangkok. La Chine, c'est le premier partenaire commercial de la Thaïlande, qui fait tout en retour pour ménager la susceptibilité de son allié régional, au mépris de la liberté de conscience. Petite victoire, l'expo n'a pas été fermée, les œuvres en question ont certes été retirées, mais les noms des artistes visés ont simplement été masqués sous des bandeaux noirs, ce qui vient évidemment piquer la curiosité des spectateurs, et ça c'est presque une œuvre d'art en soi.
Breaking news we are following here tonight at 6, that new CDC director who's been ousted less than a month after being sworn in.
Aux États-Unis, donc Guillaume, la directrice du CDC a été limogée sans ménagement.
Voilà, un mois seulement après avoir pris ses fonctions, Suzanne Morales, à la tête du CDC, la principale agence sanitaire américaine, et on imagine parfaitement la scène. You're fired. Vous êtes viré, cette façon si particulière de remercier les fonctionnaires quand on est dans le collimateur de l'administration Trump, et en l'occurrence dans celui de son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., porte-voix controversée, on l'a entendu, du mouvement anti-vax aux États-Unis, et qui reproche au CDC d'avoir été, je cite, trop complaisant à l'égard de l'industrie pharmaceutique. Alors il faut dire que depuis son arrivée aux affaires, Kennedy Jr., Robert, bouleversé la politique vaccinale américaine. Il a fait limoger des experts de renom, il a coupé des fonds pour le développement de nouveaux vaccins, il a limité l'accès à ceux qui traitent le Covid. Tout cela en rupture avec le consensus scientifique. Dans cette histoire revisitée du savant et du politique, made in Trump, c'est évidemment le politique qui l'emporte, sauf que si le centre de contrôle et de prévention des maladies implose, les conséquences sanitaires aux États-Unis et même au-delà pourraient être calamiteuses.
Youngsters behaving like zombies in public.
Voilà, et puis c'est pas la nuit des morts vivants, mais presque, Guillaume, et ça se passe à Singapour.
Oui, et l'histoire est très sérieuse. Il y a de plus en plus de jeunes dans les rues de Singapour qui errent comme des zombies. Ça donne lieu à des stories rocambolesques sur les réseaux. Mais pour les autorités, c'est un véritable fléau. Cette jeunesse de Singapour, ou en tout cas une partie d'entre elles, elle a trouvé son paradis artificiel dans les vapoteuses, à l'intérieur desquelles, illégalement, des trafiquants injectent de l'éthomidate, un anesthésiant qui produit des effets sédatifs extrêmement puissants. Alors, pour en diguer le mal, Singapour va frapper très fort, au propre comme au figuré, à partir de lundi, la semaine prochaine, pour ces importateurs de vapoteuses spéciales. Ce sera jusqu'à 20 ans de prison et en prime, 15 coups de bâton. Oui. Et si vous êtes pris à fumer, français, vous, moi, anglais ou singapourien, évidemment, ce sera 500 euros d'amende.
Ben, nous vous l'a prévenu, hein, en quelque sorte. Merci beaucoup, à demain, Guillaume Audaz.
France Inter, le 18-20.
Allez, il est temps de partir la tech la première, Stéphane Jourdain, dans l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. C'est pas vraiment un sujet hein, pour les géants de la tech, Stéphane, et vous allez nous aider à comprendre pourquoi, en nous plongeant dans la tête de Sam Altman.
Et oui, Sam Altman, on le pensait plus raisonnable qu'Elon Musk, mais rien n'est moins sûr. Cet été, le patron d'OpenAI a visité le chantier du plus grand data center du monde, à Abilene, en plein milieu du Texas. Un data center OpenAI qui fait partie de Stargate, le grand projet à 500 milliards de dollars de Donald Trump pour renouer avec l'âge d'or de l'Amérique. Dans un podcast, Sam Altman raconte sa visite du chantier. Écoutez l'échange avec le podcasteur Théo Van. Étourdi par l'immensité de ce data center, Sam Altman nous parle de l'avenir de l'humanité.
La taille de ce truc, toutes ces salles, tous ces câbles, les générateurs, les systèmes de refroidissement, rangée après rangée, l'amoncellement de tous ces serveurs. Ils construisent même des centrales électriques en plein milieu. C'est vraiment immense. D'ailleurs, quand vous le voyez depuis le ciel, ça m'a frappé, ça ressemble à la carte mère d'un ordinateur, une carte mère géante.
En fait, la Terre ressemble de plus en plus à une planète de science-fiction ou à R2-D2.
Oui, une planète couverte de data centers. Peut-être que c'est comme ça qu'elle va finir, sauf si on les met dans l'espace. On construit une grande sphère de Dyson dans le système solaire et on met tout ça dans l'espace.
la planète recouverte de data centers. Mark Zuckerberg nous avait prévenu avec son data center, je cite, « grand comme Manhattan ». C'est donc ça le projet, sauf si on construit une sphère de Dyson. Je vous explique ce que c'est dans un instant. Conclusion du podcasteur, waouh, vous ressemblez de plus en plus à Terminator, un Terminator avec le sourire.
Ça fait vraiment plaisir. En fait, cette sphère de Dyson, donc, qui visiblement n'est pas un sèche-cheveux, c'est une marotte de Sam Altman.
Ni un aspirateur. Oui, il en parlait au début de l'été dans un autre podcast dédié à la tech.
J'adorerais construire la sphère de Dyson autour du soleil pour alimenter le plus gros data center du monde avec toute son énergie.
Et il y a un an, dans encore un autre podcast dédié à la tech.
Un jour, on ne parlera plus de fusion nucléaire, mais de la sphère de Dyson, et ce sera génial. À un moment, même si on arrive à capter toute l'énergie de la planète, ce ne sera pas assez pour nos arrière-petits-enfants. Alors, on va regarder l'univers qui nous entoure, bourré d'énergie.
Donc allez-y Stéphane, c'est quoi cette fameuse sphère de Dyson ?
Une vieille idée d'un physicien des années 60, Freeman Dyson, installer des panneaux photovoltaïques partout dans le système solaire pour capter la lumière qui passe à côté de la Terre. Si vous y arrivez, jackpot, l'énergie produite par le soleil représente 22 000 milliards de fois nos besoins énergétiques. L'idée, pimpée par Sam Altman, c'est de mettre les data centers en orbite, reliés aux panneaux solaires, fini les problèmes d'emprise au sol et de pénurie d'énergie. Tout ça à quel horizon ? Avant la fin du siècle.
Donc vous avez soumis ce projet farfelu à un spécialiste de l'empreinte énergétique du numérique et...
Oui, Tristan Netto, du cabinet de conseil en numérique Octo. Première réaction.
C'est n'importe quoi.
Deuxième réaction.
C'est n'importe quoi, parce que ça veut dire qu'il faudrait des millions de fusées pour le faire. Ça veut dire qu'il faudrait une énergie limitée sur Terre pour le faire. Et qu'on consommerait toutes les ressources de toute la Terre et de toutes les planètes. Et je suis même pas sûr que ça suffirait à faire une chose pareille.
Troisième réaction, ces vieux fantasmes de jeunes milliardaires nous éloignent des vrais enjeux.
Tout ça n'a aucun sens et évidemment n'est pas faisable dans les siècles à venir. Et aujourd'hui, on a une urgence qui est celle des limites planétaires. On est en train de détruire la biodiversité, on est en train de détruire l'habitabilité de la planète. Et ça se joue sur les années à venir. Ça fait 50 ans qu'on tarde à agir. Et donc se dire dans deux siècles, on aura une solution formidable, c'est absolument n'importe quoi.
Et pourtant, quand même, Stéphane, cet été, le secteur de la tech a commencé à s'intéresser à son bilan carbone.
Oui, petite révolution dans un secteur habitué à faire la politique de l'autruche. Tour à tour cet été, le géant des puces Nvidia, Google ou la start-up Mistral ont dégainé des estimations du coût environnemental de leur IA, avec quelques chiffres spectaculaires. Par exemple, la phase d'entraînement de l'IA de Mistral équivaut à 3000 trajets en avion autour de la Terre pour un passager ou 100 millions de kilomètres en voiture. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais j'en ai aussi des bonnes. Une requête à l'IA de Google, Gemini, consomme moins d'électricité que de regarder 9 secondes de télévision. Et surtout, en un an, le bilan carbone d'une requête Gemini aurait été divisé par 44. Une bonne nouvelle, vraiment, on retrouve notre expert.
Google consomme 33 fois moins de ressources et émet 44 fois moins de gaz à effet de serre pour une même requête. Dans l'espace d'un an. C'est formidable, ces progrès. Mais sur la même période, c'est pas fois 33 ou fois 44 qu'on a fait en interrogation de l'IA, c'est fois 1000 ou fois X millions.
Chaque requête demande moins d'énergie, mais le nombre de requêtes explose, car l'IA est partout, assistants vocaux, logiciels de retouche photo, smartphone. On est en train de se rendre dépendant à l'IA partout et tout le temps, et c'est ça le problème, nous dit Frédéric Bordage, expert en impact environnemental du numérique chez Green IT.
On court à la catastrophe tout simplement parce que on a un usage déraisonnable de cette technologie qu'est l'IA. On en met partout. Tout le sujet est là, c'est qu'on va s'habituer aux fonctionnalités d'IA, par exemple celle qui permet de supprimer des éléments d'une photo qu'on vient de prendre, sauf que tout ça coûte cher. Comme d'habitude, c'est le fait de généraliser cette technologie vraiment de façon massive qui fait que les impacts sont massifs. On devrait être plus sobre dans notre usage de l'IA.
On devrait être plus sobre. N'en déplaise à Sam Altman et à tous les technosolutionnistes, pour l'instant, il n'y a pas d'autre alternative.
Ça me donne envie de casser mon sèche-cheveux.
Ah, dis donc.
Je ne vais pas comprendre, Stéphane. Allez, à jeudi prochain.